Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colomier? Car les îles espèrent en moi. Et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alors nous regardons un peu des valeurs clés de notre Église. Et on a dit que ces jours-ci, qu'une valeur qui s'impose pour notre Église, c'est Toulouse. La ville de Toulouse. Toulouse, c'est notre prochain. Toulouse, c'est notre mission. On réfléchit comment apprécier, comment aimer, comment aider le lieu où Dieu a placé notre Église. Et vous savez certainement, la ville de Toulouse était candidate pour être la capitale européenne de la culture en 2013, mais on a perdu une voix face à Marseille. Voilà. Mais en tout cas, capitale européenne de la culture, cette initiative cherche à mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures, cherche à développer la culture et aussi cherche à attirer du monde, les touristes, les étrangers, vers une ville. Et quand on parle de la culture, on parle de l'art, on parle de l'économie, on parle de l'histoire et puis surtout l'harmonie et le fleurissement de toutes ces choses pour produire quelque chose de beau, d'attirant. Et si vous regardez bien, le passage que nous venons de lire, Ésaïe 60, décrit la ville que Dieu choisit pour être capitale de la culture du monde, capitale mondiale de la culture, en tout cas dans le monde à venir. Capitale de culture du monde à venir. Et on découvre dans ce chapitre la destinée de notre monde. Et si on comprend mieux la destinée de notre monde, ça peut nous aider à bien vivre aujourd'hui. Alors, on va essayer de comprendre ce que Ésaïe dit ici. Donc, on va voir que Ésaïe parle d'une capitale, une ville capitale. Ensuite, on va voir qu'il parle d'une capitale de la culture. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour nous à Toulouse en 2013? Donc, on va voir une ville capitale, une capitale de la culture, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous à Toulouse aujourd'hui? Ici, Ésaïe parle d'une ville, une ville capitale. Il commence en disant « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » À qui parle-t-il, Ésaïe? Eh bien, c'est une manière, tout ce chapitre, il parle, c'est une manière imagée de parler, mais il parle à la ville de Jérusalem. Parce que en verset 10, il parle de tes murs, et puis verset 11, tes portes. Et enfin, en verset 14, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion, du Saint d'Israël. Donc il parle à toi, c'est la ville de Jérusalem. Bien sûr, c'est une manière de parler à ses habitants, d'inclure ses habitants, d'encourager ses habitants. Mais il parle à la ville de Jérusalem. Il faut savoir qu'à cette époque, Jérusalem, elle est malmenée, elle est entourée par ses ennemis, elle est sur le point d'être détruite, le temple va être rasé, le temple est déjà plus ou moins dépouillé de toute sa gloire, la gloire de Salomon et tout ça, là, et il reste peu de tout ça. Les, une nation après l'autre, des grandes nations autour d'Israël sont venues pour enlever les richesses de Jérusalem, du pays d'Israël, comme butin, comme tribu. Donc, et puis ils emportent des gens, ils prennent des habitants comme esclaves. Donc les habitants sont exilés et leurs trésors sont dispersés. Et là, Ésaïe prophétise un renversement des choses. Maintenant, les trésors des nations vont venir en foule vers la ville de Jérusalem et puis des gens vont venir vers cette ville. Et vous savez, c'est un grand thème des prophètes, Ésaïe comme d'autres. C'est-à-dire la future restauration de Jérusalem, de cette ville, la future restauration du peuple juif. Il y a de nombreuses prophéties, je pense aussi à Amos chapitre 9 qui est connu. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Donc voilà, nous croyons ce qui nous fait croire à une... Que le peuple juif a encore un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu est encore plus vaste et plus grand et nous inclut tous, chacun de nous. Et en fait, il faut savoir que le Nouveau Testament cite ce passage en Ésaïe. Le Nouveau Testament cite ce passage pour parler de son accomplissement. Et là où on trouve la citation de Ésaïe 60, c'est tout à la fin en Apocalypse chapitre 21. Si vous voulez le voir, vous pouvez même avec moi, Apocalypse chapitre 21. Donc là, c'est après le jugement des nations, après le règne de 1000 ans de Christ. Et on trouve en Apocalypse 21, où on parle du nouveau, la nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et puis en Apocalypse 21, verset 22, on est en train de décrire cette nouvelle Jérusalem. Et en 21-22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et donc là, on cite directement Ésaïe chapitre 60, notamment par rapport à voilà, la lumière, les nations qui marchent à la lumière, les rois qui, de la terre qui apportent leur gloire, la trésor des nations qui entrent dans cette ville. Et en fait, c'est un très beau thème de la Bible, une belle idée, cette idée de la ville, de Jérusalem, et puis de la nouvelle Jérusalem, pour nous aider à comprendre qu'un jour, le peuple de Dieu, les saints, les croyants, vont vivre vraiment avec Dieu, qui va vivre avec nous. La Bible prend le thème d'une ville, tout simplement, une ville capitale. Et le tout, c'est d'être citoyen de cette ville-là et de pouvoir y entrer. Et puis la ville de Jérusalem, Jérusalem qui veut dire ville de paix. Un jour, on va habiter dans un monde de paix. Ce sera la cité de paix. Et tout comme Jérusalem dans l'Ancien Testament, au cœur de Jérusalem, il y avait le temple où les gens venaient donc pour adorer Dieu, pour rencontrer Dieu. Eh bien ici, il n'y a pas de temple parce que Dieu est vraiment là et il habite avec son peuple et il est au cœur de tout. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de soleil, parce qu'il y a Dieu, c'est lui qui est la lumière. Et les portes peuvent rester ouvertes tout le temps, parce qu'il n'y a pas de nuit. On ferme les portes la nuit et pour empêcher aussi des méchants, des brigands, des ennemis. Donc il n'y aura plus tout ça, donc les portes peuvent rester ouvertes tout le temps. Et l'image est très belle pour parler de notre destinée. Cette nouvelle Jérusalem, ce serait le centre de l'univers, forcément, parce que là où est Dieu, là est le centre de tout. Là est la capitale du monde, ce serait là où est Dieu et son trône et sa présence. Et donc, et puisque lui c'est la lumière, la lumière sort de lui, de sa personne, de son trône, de l'agneau, et éclaire. Donc on peut parler des nations qui marchent à la lumière de cette ville. Puis on dit, le verset dit que les nations marcheront à sa lumière, à la lumière de cette ville, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Alors qui sont ces nations, qui sont ces rois? Eh bien, c'est des gens qui apportent hommage au roi et qui entrent dans la ville pour rencontrer Dieu, pour adorer Dieu, pour être près de lui, pour l'honorer avec les offrandes qu'ils apportent. Et puis on nous précise qui peut entrer dans la ville. Qui peut entrer dans la ville, verset 27, les seuls qui peuvent entrer dans la ville, ce sont ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc les gens qui peuvent entrer dans la ville, c'est les saints, c'est les croyants, c'est le peuple de Dieu, c'est vous, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui sont inscrits dans son livre de vie de l'agneau. C'est ceux-là qui peuvent entrer dans la ville. Et là, c'est vrai, cette prophétie d'Ésaïe trouve vraiment tout son sens, parce qu'il dit les nations, c'est-à-dire les ethnies, ce que dit le mot, les ethnies marcheront à la lumière de Dieu, de l'agneau, de son trône, de la ville. Les nations marcheront à la lumière. Et voilà, les ethnies, l'Église est composée des gens de toute ethnie. Nous sommes déjà ce matin ici un échantillon des nations qui marchent à la lumière de Dieu, qui sont réunies ensemble, qui viennent ensemble. Le peuple de Dieu est composé des gens de toute nation, de toute ethnie. Et puis il y a d'autres passages qui parlent, c'est d'ailleurs un texte que le frère Sylvain nous a lu ce matin. Vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte. On parle le sacerdoce royal, on participe dans un côté de royauté avec Jésus-Christ. Il y a des versets qui disent nous régnerons avec Christ, des promesses de couronne pour le peuple de Dieu. Tout ça, on n'y est pas encore, donc on ne sait pas exactement comment Dieu va répartir des rôles et des récompenses et des couronnes et des titres, mais c'est la destinée, c'est ça le paradis. Nous, le peuple de Dieu, les nations aussi confiées la gestion de l'univers avec Christ, qui régneront avec Christ. Et bien donc on peut parler des nations et des rois qui apportent la gloire à Jésus-Christ. Pour l'instant, c'est vraiment l'exception qu'un roi ou une autorité politique rend hommage à Jésus-Christ, vient à lui, se prosterne devant lui, veut l'adorer, veut participer dans ses projets à lui. C'est l'exception. De temps en temps, ça existe, un roi chrétien, un gouverneur chrétien, un maire chrétien. Ça peut exister dans l'histoire, parfois au moment des moments clés de l'histoire, des moments de réforme, de réveil. Dieu a placé des autorités, soit carrément chrétiennes, converties, qui aimaient le Seigneur, ou bien qui étaient favorables à la cause des chrétiens. Et c'est fort de voir, mais c'est vraiment l'exception. Aujourd'hui, peu de rois, peu d'autorités politiques veulent courir vers Dieu, vers sa présence, pour lui rendre hommage. Et l'apôtre Paul se trouvait, lui, souvent face aux autorités, qui étaient souvent hostiles ou neutres, et il n'hésitait pas à les inviter, à les inviter à croire en Jésus-Christ, à fléchir le genou devant Christ pour venir à lui. Mais aujourd'hui, c'est l'exception. Par contre, dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, dans l'éternité, voilà, Dieu va après le jugement, tout ça, c'est son peuple. Dieu va prendre son peuple et, leur confier des choses, des domaines à gérer, le monde à venir. Mais c'est ce que nous sommes héritiers, en quelque sorte. Et voilà, et lui, il va régner à partir de, on va dire, la Nouvelle Jérusalem. C'est ça, sa présence, son trône. Et puis le monde, ça va tourner tout autour de lui, de sa présence. Donc on peut parler d'une ville capitale. La destinée du monde, c'est cette nouvelle Jérusalem, cette présence de Dieu. Et c'est ce qu'annonce déjà Ésaïe. Donc si on revient à Ésaïe, on voit maintenant, non seulement la destinée, c'est une ville, c'est une capitale qui attire tout le monde vers Dieu, mais c'est, on peut dire, une capitale de la culture. Parce que tout au long de ce chapitre 60, on parle des richesses, des trésors, des gens qui arrivent pour apporter des choses à cette ville. Vous avez le verset 5 et 6. Tu te réjouiras alors et tu te réjouiras, ton cœur bondira, se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba et porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. C'est quoi toutes ces choses, ces richesses de la mer, ces dromadaires qui arrivent? En fait, ce qu'on voit ici, c'est des richesses culturelles, les richesses venant d'une diversité d'endroits et de cultures qui viennent pour publier la louange de l'Éternel. On parle d'une foule de chameaux de Madian et de Séba. Ça c'est vers le sud, qui arrivent vers le sud. Et puis Kédar, on parle des troupeaux de Kédar. Ça, c'est vers la Jordanie, donc vers l'Orient. Et on parle des navires de Tarsis. Des navires de Tarsis venaient sur la mer, donc venaient de l'Occident. Tout ça par rapport à Israël. Et puis plus tard, on va parler de la gloire du Liban. Le Liban, c'est au nord. Donc si vous regardez bien, vous avez de tous les points cardinaux des choses qui viennent en foule pour rendre hommage à Dieu. Quand on voyait les navires de Tarsis entrer en port, on savait qu'ils portaient des choses précieuses qui venaient de loin. Et on était tout content de les voir arriver, parce que les navires de Tarsis, c'était les experts en commerce maritime. Et là, ils viennent en foule, verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colonnes vers leur colomier? Voilà, tous ces voiles ressemblent à une foule d'oiseaux blancs qui arrivent vers Jérusalem. Et ce qu'on trouve donc, c'est toutes sortes de richesses qui viennent de différentes cultures et qui sont maintenant dédiées à la gloire de l'Éternel. Au lieu que les autres nations dépouillent le temple et dépouillent Israël, maintenant c'est tout le contraire. Ils apportent tout leur trésor, toutes les richesses pour orner l'adoration de Dieu. Et c'est là qu'on découvre que le culturel et le cultuel vont ensemble. En France, on a fait, c'est pratique pour beaucoup de distinguer entre culturel et cultuel. Comme ça, on garde les cultes dans un coin à part, mais le culturel et le cultuel vont ensemble. Aujourd'hui, si vous dites à un voisin, je vais à un festival culturel, ou je vais à une conférence à la fac, ils disent, ah, c'est très bien, vous êtes très cultivé. Si vous dites, je vais au culte, ils disent, ah, là, vous êtes un peu bizarre. Mais la Bible envisage un jour, c'est ce que Ésaïe annonce, la Bible envisage un jour où l'activité culturelle sera parfaitement dédiée à la gloire de Dieu. L'éternité sera remplie de culturel à la gloire de Dieu. Et c'est beau de penser à ça. Aller au ciel, passer l'éternité avec Dieu, ce n'est pas voir nos connaissances et nos talents et nos goûts disparaître, c'est de les voir éveillés, c'est de les voir éclairés par la lumière de Jésus-Christ, par la beauté de Jésus-Christ, avec un résultat merveilleux. Donc il faut penser que le jour arrive où le talent d'un musicien comme Claude Nougaro, ou bien le talent d'un architecte, ou le talent d'un animateur de programme ou d'enfant, ou le talent d'un commercial, toutes ces choses vont être dédiées à Christ et vont servir à lui, dans le monde nouveau, à sa gloire. Aujourd'hui, si vous suivez un peu le calendrier dit chrétien, c'est l'épiphanie. C'est la fête des rois, la fête des mages. Donc il y a les galettes partout et déjà c'est une richesse culturelle en France, la galette des rois. Mais quand vous pensez un peu à la venue des mages, c'était un accomplissement partiel, on va dire sur petite échelle, un échantillon de cette prophétie en Ésaïe 60. Parce que Ésaïe parle d'un moment où voilà, ils vont venir de l'Orient sur des chameaux et des dromadaires, ils vont apporter de l'or et de l'encens et ils vont publier les louanges de l'Éternel. Et c'est exactement ce qu'ont fait les mages. Ils sont venus de l'Orient, ils sont venus à Jérusalem, et ensuite à Bethléem. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté de l'or, de l'encens, du myrrhe pour... Et puis, ils ont adoré Christ. Ils ont publié le louange de l'Éternel en disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes là pour l'adorer. » Et ils l'ont adoré. Pourquoi de l'or et de l'encens et de myrrhe? Mais en fait, c'était des spécialités de leur région. C'était les trésors qu'ils avaient. C'était exquis, en quelque sorte, ce qu'ils apportaient. Certes, Jésus n'avait pas besoin de... Un coffre d'or, qu'est-ce que Jésus bébé va faire avec l'encens? C'est plus l'attitude du cœur qui est reflétée. Ils prennent les spécialités de là où ils viennent, de l'Orient, et de manière somptueuse, ils l'offrent à Christ. C'est leur manière de rendre hommage à Christ. C'est ce qu'ils avaient de plus précieux à offrir, et c'était les trésors des nations qui venaient vers la présence de Dieu. Alors, si les mages venaient de Toulouse, si les mages étaient toulousains, qu'est-ce qu'ils auraient apporté? Qu'est-ce qu'ils auraient apporté à Christ? Eh bien, ils auraient apporté un A380. Ils auraient apporté un parfum esquis de violette. Et pourquoi pas, ils auraient apporté le remède de cancer qu'ils vont nous trouver au concert en Paul. Ou bien quelques trophées du stade toulousain. L'idée, c'est que de toute manière, Dieu mérite tout ça. Parce que toutes ces choses que une culture peut apprécier, toutes ces choses viennent de Dieu. C'est Dieu qui les permet. Et les rendre à Dieu, ou en tout cas glorifier Dieu parce que c'est lui qui les donne, c'est une manière de l'honorer. Comme j'ai dit, Jésus n'a pas besoin d'un coffre d'or, il n'a pas besoin d'un A380 pour se déplacer. Mais c'est le geste qui compte, c'est le trésor des nations, c'est les trésors qui viennent de notre cœur, c'est la disposition du cœur. Et c'est toute cette diversité qui est belle et qui loue Dieu. Aujourd'hui, si on fait des capitales européennes de la culture, c'est pour célébrer la diversité. Mais Dieu l'a pensé bien avant la Commission européenne. Ici, ce que Dieu veut, c'est une diversité culturelle qui le loue, parce que c'est lui le roi de toute culture. Et quand on pense aux mages qui sont venus, c'est ça. Il y avait cette diversité qui est une belle diversité réunie autour de la naissance de Christ. Les mages, c'était des savants. Un mage, c'était un mélange entre astronome, astrologue, philosophe et professeur à la fac, on va dire. Et eux, un personnage comme ça qui vient louer Christ avec de l'or, de l'encens, de myrrhe, juste à côté des bergers, des simples bergers juifs, on trouve tous les deux dans les récits de la naissance de Christ, et c'est cette diversité-là qui est magnifique, juifs et non-juifs, très instruits, moins instruits, de près, de loin, ça c'est la diversité culturelle qui fera partie de l'éternité à la gloire de Dieu. Et on a l'occasion, nous, déjà de le vivre. On sait que le ciel sera très multi-ethnique, parce que c'est la prophétie d'Ésaïe. Il dit, les îles vont espérer en moi, en Dieu, les îles vont espérer, et les étrangers vont participer à tout ça. Versets 9 et 10. Maintenant, c'est vraiment la nouveauté, c'est que les étrangers viennent pour adorer Dieu dans cette ville, cette capitale. Et c'est des étrangers qui participent à la reconstruction, à la florissement culturel de cette ville. Et dans l'Église, on a déjà déjà l'occasion de le vivre. Au Nouvel An, le Réveillon, on a fait une soirée orientale. On s'est réjoui de la trésor de ces nations du Maghreb qui peuvent glorifier Dieu quand on a fait ainsi. Après, il y avait un chant d'Astrid, un chant africain qui c'est la trésor de ces nations-là qui glorifie Dieu. Et il y avait même des Gaulois et des Romains, je crois, qui ont agi à la gloire de Dieu, qui nous ont enrichis culturellement et autres. Donc on a déjà l'occasion, nous, de le vivre dans l'Église, et ces versets rappellent que c'est vraiment la destinée. Ce que le monde recherche, finalement, dans cette capitale européenne de la culture, dans ce qui est beau, eh bien, Dieu l'offre, c'est notre destinée. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous à Toulouse? Mais je pense que nous, on peut déjà apprécier beaucoup de choses autour de nous. On peut dire que les richesses culturelles sont une bonne chose, la diversité culturelle est une bonne chose. Et déjà vous participez à cette richesse. Chacun ici, par son métier, par ses activités, apporte forcément une richesse à Toulouse et à notre Église, par votre métier, par votre savoir-faire, par votre culture. Cela fait partie de la beauté de la création qui loue Dieu le Créateur. Ça fait partie de sa grâce commune, de toutes ses goûts, ses spécialités, ses richesses culturelles. Ce serait dommage qu'il y avait une seule culture ou un seul plat qui était bon. Non, c'est l'ensemble qui est beau. Donc l'art, la musique, la productivité, le savoir-faire, l'éducation, de toutes ces activités dans lesquelles vous participez et souvent que vous aimez, mais on peut les apprécier parce que c'est Dieu qui Dieu les veut pour lui, pour sa gloire, et c'est lui qui les a créés. Mais ça nous aide aussi à savoir le but des richesses culturelles, des cultures. Si on ne les utilise pas à la gloire de Christ, c'est en vain. Et il y a quand même un avertissement ici, verset 12. La nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Donc, voilà, la destinée de notre monde, c'est de glorifier Christ. Si on ne veut pas participer à cette destinée, eh bien, on est exclu dans les ténèbres. Et on est rejeté. C'est pour ça que la Bible parle de l'enfer. Et quand on pense à la culture, à les richesses culturelles, il faut savoir qu'il y a deux manières de les vivre. Soit on peut les vivre à la gloire de Dieu et les dédier à Jésus-Christ, ou bien, souvent, ce qui est le cas malheureusement, c'est de les vivre pour sa propre gloire ou à des fins qui ne glorifient pas Dieu. Donc on peut travailler pour un remède de cancer pour la gloire de Dieu, c'est une bonne chose. Ou on peut travailler pour un remède du cancer, pour se donner le sentiment qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et là, c'est rejeter Dieu. On peut écrire une musique magnifique à la gloire de Dieu, un peu comme Bach l'a fait. Ou on peut écrire une musique et l'interpréter pour se glorifier. Et là, on risque d'être exterminé ou rejeté. La réalité, c'est que tout ce qui n'est pas fait pour Dieu va disparaître. Ce monde passe. C'est le choix devant la France, c'est le choix devant Toulouse, c'est le choix devant chacun de nous. Les talents, les métiers, les richesses que Dieu me confie, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que j'entre dans la destinée du monde, la destinée qui est décrite dans la Bible, où tout doit aller vers Dieu, qui est le seul centre de l'univers qui est digne de l'être? Souvent, nous, on veut être nous, le centre de l'univers, et donc tout ce qu'on fait, c'est pour une fierté personnelle, moi ou ma ville ou mon ethnie, mais ça c'est pas le centre de l'univers et c'est la meilleure façon d'être rejeté, exterminé. Il n'y a que Dieu qui peut être le centre de l'univers et tout doit être dirigé vers lui. Et c'est le problème. Aujourd'hui, beaucoup des choses dans la culture ne glorifient pas Dieu et c'est pourquoi on ne peut pas toujours abonder dans le sens de la culture. Il y a des choses moches, des choses immorales. Le talent y est, mais le but n'est pas bon. Et c'est pour ça que parfois, nous, on a du mal à participer à tout ce qui se fait dans la culture, à tout ce qui se fait à Toulouse, parce que on souhaiterait tellement que ça glorifie Dieu, mais parfois ça ne le glorifie pas. Ça vous est arrivé, un spectacle sympathique à laquelle vous voulez amener des enfants ou vous voulez apprécier quelque chose, et puis vous découvrez le contenu, parfois sur place, et parfois c'est choquant, parfois ça ne convient pas du tout aux enfants, parfois c'est carrément immoral, et ça nous peine parce qu'on se dit, oh là là, on est pour la richesse culturelle, on est pour ces belles, ces talents et tout ça, mais si c'est pas pour Dieu, c'est en vain, ça va détruire la personne qui le fait, ça va détruire la culture autour, et ça peut jamais conduire à la paix, à la vraie paix et l'harmonie des cultures si Dieu n'est pas au centre. Et là, on est face un peu à un grand problème parce que comment, que espérer pour Toulouse, que espérer pour nous? Le verset 21 dans Ésaïe 60 dit, en parlant de cette ville future, cette nouvelle Jérusalem, paradis, verset 21 dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, il possédera toujours le pays. C'est le rejetant que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. C'est ça qu'il faudrait pour qu'une culture loue Dieu. Des justes, que des justes. Parce que si on est injuste, on va faire des choses injustes avec nos talents, avec notre expérience, avec notre savoir-faire. Il faut être juste. Alors comment faire que tout le peuple soit juste? Et c'est ça le grand projet de la Bible, c'est que Dieu veut créer on a chanté une nouvelle humanité, il veut créer un nouveau peuple, nouvelle terre, nouveau ciel, nouvelle ville où les gens peuvent habiter, mais pour que ça marche vraiment, il faut qu'il y ait des justes. Et Dieu a fait le nécessaire pour pouvoir mettre que des justes dans sa maison, dans sa ville, dans sa présence. Et pour le faire, il a envoyé Jésus-Christ qui était juste, et il est venu et il a donné sa vie pour nous les injustes, pour nous rendre justes. C'est le message au cœur de la Bible, pour nous justifier. Pour transformer nos cœurs qui ne voulaient pas apporter des trésors, nos trésors, qui ne voulaient pas donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu, mais qui voulaient donner le meilleur de nous-mêmes à nous-mêmes, c'est ça qui est injuste, et Dieu a fait le nécessaire pour nous transformer. Vous savez, vous connaissez ces prophètes, ces prophéties, Amos et Ésaïe parlent, ils annoncent que les ruines de Jérusalem seront reconstruites. Et dans un sens, on l'attend littéralement, même les événements politiques. Beaucoup de chrétiens suivent de près ce qui se passe en Israël, parce qu'il semble qu'il y a quelque chose dans tout ça, il y a des choses, il y a une reconstruction, tout ça. Mais en Actes chapitre 15, très surprenant, en Actes chapitre 15, les apôtres sont réunis et ils ont tout un débat sur le statut des non-juifs. Est-ce que les non-juifs peuvent participer au salut, à l'église? Est-ce qu'ils peuvent venir avec nous? Est-ce qu'on peut être ensemble? Est-ce que Dieu veut une diversité ethnique parmi son peuple? Finalement, c'est un peu ça la question. Et donc, les apôtres sont réunis pour ce débat, parce que c'est nouveau pour eux de voir tous ces gens de loin, des gens qui ne sont pas juifs, venir. C'est un peu nouveau, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est là où Jacques, qui est très juif d'ailleurs, Jacques, qui se lève. Et lui, il cite, pour expliquer ce qui est en train de se passer avec ces nouveaux chrétiens qui ne sont pas juifs. Il se lève et dit, en fait, tout ça s'accorde, verset 15, Actes chapitre 15, verset 15, avec des prophètes. Et là, il va citer Amos, mais on trouve carrément la même pensée en Ésaïe, dans notre chapitre. Il cite Amos, il dit, « Après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Vous voyez ce que Jacques dit? Il dit, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce début de reconstruction pour que les nations viennent à Dieu. Et pour lui, il comprend que par la venue de Christ, par sa mort et sa résurrection, Voilà, maintenant le salut s'offre à toutes les nations. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à rebâtir la ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. C'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui peut enfin faire que ceux qui placent leur confiance en lui deviennent justes, vraiment justes, sont attirés et viennent. Et eux créent un peuple, un nouveau peuple, avec beaucoup de diversité, mais un désir d'apporter le meilleur à Dieu et de participer dans cette richesse culturelle. Et c'est ça le message de la Bible. Jésus, le seul juste, il est venu même à cette ville de Jérusalem, et là il a été rejeté, il a été crucifié à l'extérieur de la ville, en dehors de la ville. Ça faisait partie de la honte d'être crucifié en dehors de la ville, à côté de la décharge. Et il a été crucifié là pour nous offrir l'entrée dans sa présence, l'entrée dans la cité de Dieu, l'entrée dans la nouvelle Jérusalem, l'entrée auprès du trône de Dieu, de pouvoir participer à cette capitale de la culture éternelle. Et on découvre que c'est par Christ et c'est par nous que Dieu commence cette belle œuvre annoncée en Ésaïe, où les nations accourent vers la gloire de l'Éternel. Et donc c'est ça finalement la question pour chacun. Suis-je citoyen du ciel? Oui, je suis citoyen de Toulouse, mais pour être le meilleur citoyen de Toulouse, il faut que je sois citoyen du ciel, citoyen de la cité à venir, citoyen de la Jérusalem céleste. Et si oui, je fais partie de cette lumière, ce peuple qui rayonne de lumière pour attirer le monde à Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et ce que Dieu commence déjà, il a fait un peu par les mages, avec l'étoile, et eux ils ont pu suivre cette lumière, et maintenant il le fait par son Église, qui existe pour être une lumière dans ce monde, pour attirer les gens à venir à Christ. Donc c'est ce que nous voulons être, nous, cette église, le Bethléem, nous voulons être cette lumière, cette ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Ce que Jésus avait dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et nous, on veut être cette lumière qui attire les gens et qui les invite. On invite Toulouse à apporter toutes ses richesses, tout son savoir-faire, tout ce qui est précieux, on l'invite à l'apporter à Christ et glorifier Christ ainsi. Et c'est la seule destinée qui vaut d'être vécue, au lieu d'être exterminée, au lieu d'être rejetée, c'est de participer à ce qui vient, à ce que toute la Bible décrit. Et nous avons l'occasion de le vivre ici, dans l'Église, et on invite d'autres à se joindre à nous dans cette ville de Toulouse. Prions.